Vous écoutez RTL, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, merci d'écouter RTL. Bonne journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Arnaud Montebourg.
Candidat à la présidentielle. Arnaud Montebourg, quand on se penche sur votre programme, c'est intéressant, mais on se pose deux questions. Est-ce que c'est réalisable et est-ce que c'est finançable? Alors, on va prendre quelques mesures en revue. Une qui est assez grand public, on en a déjà parlé sur RTL, c'est le service militaire et civil obligatoire de 6 mois pour tous les jeunes. Tous les jeunes gens, ça fait toute une classe d'âge qu'il faudra encadrer. Quand on connaît l'épuisement de nos forces, de nos militaires qui sont sur les opérations extérieures et intérieures, encore une fois épuisés. Comment vous faites ?
Nous allons ouvrir un chantier très important. D'abord parce que la France l'a déjà fait. Je rappelle d'ailleurs qu'en 1994, là j'ai quelques chiffres, nous voyons apparaître pour 220 000 appelés le coût de 230 millions, les frais d'encadrement, de casernement. Bon, donc nous savons faire. Il va falloir, en effet, encadrer.
Nous avons su faire. Il va falloir, justement, prévoir ces réencadrements.
C'est ça, réinventer la France. C'est ça, réinventer la France.
Vous l'avez budgété, donc ?
Oui, nous l'évaluons.
230 millions, c'était à l'époque.
Oui, nous l'évaluons à 3 milliards. Hein, c'est l'investissement que le pays peut faire dans ce que moi j'appelle refaire France, c'est-à-dire se remettre ensemble, qu'on soit fils de riche, fils de pauvre, quelle que soit sa religion. Et Dieu sait, sur le débat de la religion, est devenu un peu explosif. Je crois que les Français doivent se retrouver autour de la nation.
Alors, vous dites 3 milliards d'euros par an.
Donner,
hein, 3 milliards d'euros
par an. Oui, bien sûr. Ouais. Et donner à la nation un temps, comme d'ailleurs je l'ai fait, moi, dans ma jeunesse. J'y ai appris beaucoup de choses. J'y ai rencontré beaucoup de gens différents qui n'étaient pas de ma classe sociale.
Vous n'êtes pas fait réformer, vous, à l'époque.
Pas du tout. Et je ne regrette pas. Et je dois vous dire que c'est, pour le pays, un investissement pour l'avenir. Par ailleurs, apprendre les réflexes de sécurité collective, car nous ne pourrons pas déléguer éternellement aux forces spécialisées, militaires, la gendarmerie, la police, le travail sur l'attitude à avoir en cas d'attaque. Et nous en avons pour longtemps. Donc, le réflexe d'une nation comme la France qui a été gravement attaquée, sa riposte stratégique, c'est l'unité des Français.
Donc
et l'unité
passe, ouais,
dans la société.
On a bien compris que c'était donc un pilier pour vous, considérable, y compris pour lutter contre le terrorisme, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième mesure, alors là on arrive sur un volet plus économique, vous souhaitez mettre le paquet sur les PME, dont vous rappelez que ce sont elles qui créent les emplois. Vous créez une banque qui serait une BPI, une banque publique d'investissement beaucoup plus puissante, et puis vous envisagez de nationaliser une des 5 grandes banques privées françaises. C'est sérieux ?
J'ai une vision patriotique de la finance.
C'est le nationalisme
économique ? Je considère. Non, ça s'appelle l'union des forces productives, l'alliance des forces productives, et la finance doit apporter son écho, son effort à cet effort national. Si nous voulons aujourd'hui reconstruire une industrie alors qu'elle a été ravagée par les années de crise et d'austérité, parce qu'il n'y a pas que la crise, il y a aussi les politiques qui s'en sont suivies, nous avons besoin d'argent pour remonter de cette industrie. Et nous avons besoin qu'il y ait une banque qui prenne des risques. C'est pour ça que j'ai dit, la BPI, c'est bien, elle a un bilan positif, honorable, mais je souhaite reconstruire ce que finalement on a privatisé il y a 20 ans, qui était le Crédit National, qui servait finalement à cautionner et à sortir le risque PME du bilan des banques, parce qu'en fait le Crédit National cautionnait les projets de développement des PME que les banques ne voulaient pas financer.
Vous avez constaté, vous avez été dans l'économie, dans l'entreprise pendant 2 ans, que les banques ne prêtent pas. Mais la nationalisation, ça rapporte, mais ça coûte d'abord très cher.
Je vais vous dire, d'abord, j'ai dit...
Il faut dédommager les actionnaires propriétaires.
Oui, enfin, d'abord, une nationalisation, elle peut être partielle et temporaire, c'est ce que j'ai dit. Deuxièmement, si c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que je demande au fonds d'investissement de la place de Paris, c'est de faire l'union patriotique autour de nos grands groupes pour les financer, et aux banques de faire leur travail, ce qu'elles doivent faire dans leur politique du crédit. Si ça ne fonctionne pas, j'ai dit que je n'avais pas de problème à exprimer par avance le désir d'une nationalisation. Ça veut dire que la nation doit se faire respecter. Ce n'est ni un totem obligatoire, ni un tabou interdit.
Parce que les banques, c'est l'idée qu'elles s'engraissent finalement, elles font du profit sur le dos des clients.
Non, je vais juste dire les choses. Aujourd'hui, 60% de l'activité de nos banques, c'est de l'activité de marché spéculatif. Ce n'est même plus avec les dépôts des épargnants, avec leurs clients, elles ne financent pas l'économie. Nous avons un taux d'épargne considérable dans notre pays. Il n'est pas exploité et utilisé au bénéfice de l'économie. Et le système bancaire qui est chargé justement de convertir cette épargne en investissement ne fait pas son travail. Alors, vous entendrez les banquiers vous dire, dans l'auto-congratulation à laquelle nous sommes habitués, c'est pas vrai, pas du tout. Il suffit d'aller sur le terrain, d'aller voir les PME, les unes après les autres, pour voir que maintenant, les petites entreprises se passent des banques. Finalement, elles ne vont même plus au guichet des banques, elles n'y arrivent pas.
Mais enfin, la nationalisation, ça fleure bon quand même les années 80, les vieilles recettes économiques qui n'ont pas fonctionné.
Permettez-moi de vous détromper, Madame Martichoux. Tous les pays nationalisent, encore aujourd'hui.
En cas de crise, quand une banque...
Nous sommes en état de difficultés économiques, soit la finance se met au service de l'économie réelle, car mon objectif, c'est de la faire collaborer avec l'économie réelle, soit elle le fait, et nous avançons, soit elle ne le fait pas, et nous prendrons les moyens de le faire. Alors, tous les pays, Amérique, Angleterre, Japon, Indonésie, je ne vous parle même pas des Chinois, où la quasi-totalité des entreprises qui viennent nous prendre des marchés sont publiques. Donc, je crois qu'il faut maintenant regarder les choses en face. Les nations qui sont conquérantes sur le plan économique, ont toujours un État fort derrière. C'est cette collaboration entre le public et le privé que je veux redéfinir. Et c'est assez innovant, c'est vrai, mais je crois que le plus résistant à ça, ce sont quand même le système bancaire.
Le plus important, c'est que ça crée des emplois. Vous avez dit que c'était au service de l'économie réelle. Pierre Gattaz déclare ce matin dans Les Échos, alors que s'ouvrent les universités d'été du MEDEF, on peut créer 2 millions d'emplois en alignant le niveau des charges de nos entreprises sur celui de l'Allemagne, en déverrouillant le marché du travail ou en baissant les charges globalement. Il avait annoncé 1 million d'emplois, il dit ce matin, c'est possible d'en faire 2 millions. Vous lui dites banco, vous lui dites quoi, Pierre Gattaz,
le patron du MEDEF ? Le président du MEDEF demande toujours la même chose, il promet toujours la même chose, et quand il les obtient, il redemande la même chose en plus, mais n'a pas réalisé sa promesse antérieure. Donc, il faut se poser des questions, pourquoi ça n'a pas marché ? Finalement, le CICE, même si, je crois que c'était nécessaire. Je crois que c'était nécessaire, pas dans le format tel qu'il a été choisi. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'aujourd'hui, le problème des chefs d'entreprise, c'est le problème de la demande. 60%, 65% des problèmes identifiés par les chefs d'entreprise, c'est « j'ai pas de marché, j'ai pas de clients, l'économie est à plat ». Voilà. Et vous pouvez baisser les charges, vous pouvez changer le droit du travail en faisant croire d'ailleurs que c'est le droit du travail qui est la cause du chômage, ce qui est absolument impensable. On a créé des millions d'emplois avec le même code du travail il y a 10 ans. Eh bien,
qu'est-ce que vous en faites de la loi travail de El Khomri quand vous arrivez au pouvoir ?
Pour moi, le code du travail ne donne satisfaction ni aux employeurs, ni aux salariés. Et en vérité, comme il ne donne satisfaction à personne, il va bien falloir en discuter. Et on ne peut pas réformer des règles qui protègent les salariés sans leur offrir en contrepartie les éléments de l'effort qu'ils peuvent faire.
Alors, vous êtes en début de campagne, on aura l'occasion de parler aussi de ce que vous dites sur l'Europe. Vous voulez faire exploser les règles budgétaires. Est-ce que c'est très raisonnable, très responsable ? Mais un mot de politique, c'est important aussi, alors que nous sommes à quelques mois d'une primaire socialiste. D'abord, Manuel Valls a tenté de mobiliser les socialistes hier soir. Il s'est posé en rempart, finalement, de François Hollande. Est-ce que, pour vous, c'est de l'aveuglement ou est-ce que c'est de la loyauté ?
Écoutez, je fais une campagne de proposition. C'est-à-dire que je défends un autre chemin, alternatif, très différent et innovant. Bon. Moi, je ne souhaite pas entrer dans des polémiques, y compris avec le gouvernement. Le gouvernement, il a le bilan que les Français lui attribuent.
Attendez, dans votre discours à Frangy, je l'ai bien écouté, en question polémique, vous avez tapé, excusez-moi l'expression, comme un sourd sur François Hollande.
Je ne crois pas du tout. J'ai juste dit que le bilan était indéfendable et qu'il ne devrait pas se représenter. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas gagner avec un bilan pareil et surtout, dès lors qu'on est soi-même l'auteur de renoncement et de reniement. Ce sont des vérités que les Français peuvent partager. Et d'ailleurs, je le redis à votre micro, je pense que le choix que devrait faire en responsabilité et en toute liberté, en conscience, en se regardant lui-même, le choix que François Hollande devrait faire, c'est de ne pas se représenter, car il ne peut nous mener qu'à une élimination programmée dès le premier tour d'élection présidentielle.
Nicolas Sarkozy était à votre place hier dans ce studio, Arnaud Montebourg. Il réclame une loi pour interdire spécifiquement le burkini sur les plages et dans la piscine, dans les piscines. Il a tort ?
Écoutez, je désapprouve, à titre personnel, le burkini. Je considère.
C'était une question subalterne. C'était assez choquant ce que vous avez dit.
Subalterne ne veut pas dire insignifiant. Subalterne, ça veut dire que pour moi, les problèmes de la France, ce n'est pas les maillots de plage. Les problèmes de la France, c'est le chômage, le terrorisme et la question européenne. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut affronter dans les cinq années. Écoutez, je vais vous dire une chose.
Il n'y a pas un problème d'identité en France ?
Je crois que nous sommes capables, par la sagesse, la recherche de la concorde civile, de faire vivre des gens très différents sous le même toit. Nous en sommes capables. Nous l'avons déjà fait. Donc, moi, vous me permettrez de dire, je désapprouve le burkini. Je considère qu'il est une sorte de position de subordination de la femme, dont le corps serait diabolisé. Donc, c'est, pour moi, en contradiction avec les principes d'égalité homme-femme. Néanmoins, est-ce que nous allons interdire tout ce que nous désapprouvons, Madame Martichoux ? Je ne crois pas.
Ah ben, si vous êtes président et si vous désapprouvez effectivement une manifestation qui brave la laïcité française, vous devez prendre vos responsabilités.
Oui, mais je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est sage de ne pas succomber à ce type ou ce risque de provocation. Parce que quand on prend une loi pour traiter, j'allais dire, une attitude relevant des mœurs, et non pas de l'expression de la foi. Sur les plages, on n'exprime pas la foi. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, une plage. Mmh. Eh bien, on fait, je crois, le choix de tolérer, d'accord, même si l'on désapprouve.
Et donc, pas de loi.
Et donc, lorsque vous avez M. Sarkozy qui dit « je veux faire une loi », et même si la loi n'est pas constitutionnelle, changer la constitution, vous imaginez la France, cinquième puissance mondiale, qui va changer sa constitution pour traiter le problème fondamental des maillots de bain sur ses plages. L'image que nous pouvons donner au reste du monde. Donc, ma position est de dire qu'il ne faut pas succomber à la provocation. Et si j'avais à répondre à M. Sarkozy, je dirais que je ne sais pas qui croire de M. Sarkozy. Il y a le Sarkozy du discours du Bourget, car lui aussi a fait un discours au Bourget. C'est le 15 avril 2003, devant l'Union des associations islamiques de France, où il y avait d'un côté les hommes, d'autre côté les femmes. Il a dit « je veux construire l'islam de France avec vous ». Donc ça, c'est le président communautariste. Et puis, il y a le Nicolas Sarkozy, bravache, qui aujourd'hui veut faire une loi à tout propos. Donc, je voudrais comprendre quelque chose dans le logiciel de cet homme-là.
Merci Arnaud Montebourg d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
Une dernière question, si vous le voulez bien, on vient de la prendre. La France va demander l'arrêt des négociations sur le TTIP, vous savez, le traité de libre-échange transatlantique. C'est le ministre du Commerce extérieur, M. Feckel, qui vient de l'annoncer. C'est une bonne chose ?
C'est une très bonne chose.
Merci Arnaud Montebourg d'être venu ce matin sur RTL répondre aux questions d'Elisabeth Martichoux.